journal Loïc Barrière. Au Liban, le bloc parlementaire mené par le Hezbollah a perdu la majorité lors des législatives. 13 candidats issus de la contestation de 2019 font leur entrée au Parlement. 8 femmes sur 128 députés ont été élues. C'est une avancée capitale et une révolution culturelle après l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon. Fadila Meal salue la nomination d'une femme au poste de première ministre, la deuxième de l'histoire. La présidente des Mariannes de la diversité sera notre invitée. Dans ce journal, coup de projecteur sur les Émirats Arabes Unis, présidé depuis ce week-end par Mohamed Ben Zayed, nous écouterons le politologue Qatar Abou Diab. Au Maroc, la réouverture ce mardi des postes frontières de Ceuta et Melilla. 11 migrants sont morts au large de Tipaza, en Algérie. Enfin, Lamia El Haraj, candidate socialiste aux élections législatives à Paris, est l'invitée de Pluriel. Face à l'augmentation des prix, elle réclame l'augmentation du SMIC et des salaires ainsi que des pensions de retraite. Au Liban, les résultats définitifs des élections législatives. Le plus grand bloc parlementaire mené par le Hezbollah a perdu la majorité. Le mouvement de Hassan Nasrallah et ses alliés n'ont pas obtenu les 65 sièges nécessaires pour conserver la majorité. Les candidats issus de la contestation populaire de 2019 ont eux obtenu au moins 13 sièges. À noter que 8 femmes, dont 4 issues de la contestation, ont réussi à obtenir un siège au sein du nouveau Parlement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a félicité le Liban pour la bonne tenue de ce scrutin. Il a déclaré attendre avec impatience la formation rapide d'un gouvernement inclusif. La France dans l'attente d'un nouveau gouvernement au lendemain de l'arrivée à Matignon d'Elisabeth Borne, devenue lundi la deuxième femme à accéder à Matignon. La première ministre devra mettre en œuvre la planification écologique promise par le président Macron. Parmi les personnes qui se réjouissent de l'arrivée d'une femme à Matignon, Fadila Meal, présidente des Mariannes de la diversité.
C'est vraiment un événement de très grande importance puisque 30 ans après Édith Cresson, c'est Elisabeth Borne qui occupera désormais la première des ministres qui sera en charge donc de l'exécutif et de former le gouvernement. Donc c'est une avancée capitale parce que pour moi c'est une révolution presque culturelle finalement puisque personne ne doute plus que des femmes de son tempérament et de cette compétence existent. Mais comme l'a rappelé d'ailleurs Édith Cresson dans un journal, elle disait en fait la population, le peuple, la société est prête. Ce sont simplement les dirigeants politiques qui ne l'étaient pas. Et je suis très très heureuse qu'Emmanuel Macron ait fait ce geste de cette nomination parce que ça montrera pour les années à venir et pour toutes les femmes qui arrivent en politique que c'est possible d'accéder à ce poste tant convoité. En plus, ça répond aussi à un double défi qui est celui de la parité, mais aussi celui de la mixité, c'est-à-dire la mixité au sein des plus hautes instances de l'État politique n'existait pas parce que c'était souvent deux hommes. Et donc aujourd'hui, il y a un homme et une femme, et je crois que c'est l'exemple et l'incarnation de ce qu'il vit et de ce que vivent tous les Français et les Françaises dans leur quotidien.
Il y a 30 ans, Édith Cresson avait été maltraitée par les médias, par la classe politique. Elle avait été victime de sexisme. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette époque est révolue?
Oui, je crois que cette époque est révolue parce que vous l'avez vu dès les premières annonces, son CV a été mis en exergue et il est complètement démonstratif que les compétences sont là. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette suspicion d'incompétence pour les femmes parce que ça ne va pas de soi. Et je crois que le fait qu'elle soit bardée de toutes ces distinctions finalement qui ont fait que c'est un haut fonctionnaire, elle a dirigé des entreprises, elle a été préfète, elle a fait de la politique puisqu'elle était directrice de cabinet notamment de femmes illustres. Et donc tout ça fait que ça va banaliser la présence des femmes maintenant dans les plus hautes instances. Et moi, je suis très heureuse parce que je l'avais annoncé, rappelez-vous, avec le manifeste que j'avais fait, que nous avions rédigé, nous les Mariannes de la diversité, qui s'intitulait d'ailleurs « Osons les femmes en politique ». Et on m'avait à l'époque rétorqué « Mais non, c'est un épiphénomène, ne faut pas imaginer qu'il faut se battre pour une première ministre ». Je crois que j'ai eu raison de le faire parce que c'est une ouverture, c'est un plafond de verre qui est désormais dépassé. Et je pense qu'on pourra passer à autre chose maintenant.
La prochaine étape, après les législatives, ça pourrait être une présidente de l'Assemblée nationale, puisque ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de la République.
Vous avez raison, c'est une étape importante. Moi, je pense que toutes les échelles et tous les statuts qu'il convient d'obtenir, eh bien, il faut le faire. C'est-à-dire que je ne dis pas que toutes les femmes doivent évidemment tendre vers ces places supérieures, mais il ne faut absolument pas qu'elles en soient empêchées. C'est en ça que la lutte, elle est pour l'égalité. C'est-à-dire que nous ne voulons pas d'affirmative action ou de comment dirais-je, des choses supplémentaires pour les femmes. C'est le droit, rien que leur droit, en fonction de leurs compétences. Et je crois qu'Emmanuel Macron l'a dit de façon très nette, à chaque fois qu'il s'ouvrira un poste où les compétences à égalité sont repérées, eh bien, il faudra mettre des femmes de façon volontariste pour rééquilibrer finalement une mixité qui n'a pas encore atteint sa plénitude.
Il faut aussi que les partis politiques fassent des efforts. On a vu les photos des dirigeants de la majorité présidentielle, mais c'est valable aussi à gauche où tous les partis politiques sont dirigés par des hommes.
Vous avez raison, vous avez raison. Il reste encore ces plafonds et ces parois de glace qui font que les femmes ne s'autorisent pas à prendre des responsabilités, parce que c'est vrai que la plus grande difficulté, elle vient d'elles-mêmes, elles perdent de confiance, le fait qu'elles considèrent qu'elles ne sont pas à leur place ou qu'elles doivent trouver des justifications. Je crois que c'est tout le travail des associations aussi de les aider à comprendre qu'elles sont légitimes là où elles se trouvent, qu'il faut bien évidemment qu'elles entrent en compétence et qu'elles approfondissent aussi leurs expériences, mais tout est possible, moi je crois, tant qu'il y a un chemin d'ascension, de promotion, il faut le favoriser. Et c'est vrai que il y a des marches symboliques qui sont très très importantes, je pense le fait qu'il y ait plus de femmes au Panthéon. Moi j'ai milité beaucoup pour que Joséphine Becker rentre au Panthéon parce que c'était bien sûr une femme, c'était une résistance, mais c'était une femme de la diversité. Et je crois qu'il y a aussi cette étape-là de la diversité, puisque bien sûr il y a eu des avantages, il y a eu des avancées significatives, mais en réalité les femmes issues de la diversité restent encore assez peu présentes dans les postes de direction, dans les COMEX, dans les CODIR. Et donc, il faut faciliter dans les mentorats, l'accompagnement. Et la pétition que j'ai écrite avec les Mariannes de la diversité, qui est plus un manifeste d'ailleurs qu'une pétition, qui s'appelle « Osons les femmes en politique », qui a 5 recommandations, dont la 6e avec le fait qu'il y ait une mixité au plus haut sommet de l'État, eh bien, elle soit signée par tous les partis politiques, et je crois que c'est le travail que nous allons entamer. J'ai déjà Stanislas Guérini qui a signé ce manifeste, je l'ai envoyé à tous les dirigeants des partis politiques, que ce soit tous les partis évidemment républicains, et pour le moment, lui seul s'est déclaré, donc je suis tout à fait patiente pour recevoir leur avis sur ces recommandations et j'espère qu'ils le signeront tous.
Fadila Meal, présidente des Mariannes de la diversité. En Tunisie, un ancien député condamné par un tribunal militaire à 5 mois de prison pour insulte envers des policiers. Il s'agit de Seyfedine Mahlouf, chef d'El Karama, opposé à la politique menée par le président Kais Saied. En Libye, le Parlement et le gouvernement, soutenus par le maréchal Khalifa Haftar, ont annoncé leur arrivée à Tripoli, siège du pouvoir exécutif rival. Après cette annonce, des affrontements ont éclaté dans la capitale libyenne entre groupes armés. Ce week-end, Mohamed Ben Zayed, surnommé MBZ, est devenu président des Émirats Arabes Unis, homme fort du pays depuis plusieurs années. Il a succédé à son frère, Khalifa Ben Zayed El Nahyan, mort vendredi. Le président Macron a effectué à Abu Dhabi son deuxième voyage depuis sa réélection. Analyse du politologue Qatar Abou Diab.
MBZ, le Cheikh Mohamed Ben Zayed, qui a été depuis un certain moment le prince héritier de l'Émirat d'Abu Dhabi, l'un des piliers de cette fédération des Émirats Arabes Unis, et l'homme fort de son pays depuis la maladie de son frère qui venait de mourir, Cheikh Khalifa Ben Zayed, ça représente quand même un tournant pour les Émirats. C'est lui qui a quand même lancé la diplomatie d'ouverture. Et il a été aux côtés de son frère et de l'émir de Dubaï et des autres émirats pour installer, pour renforcer une expérience fédérale réussie, unique dans le monde, un pays prospère et en même temps un pays qui a son poids diplomatique, qui a son rôle géopolitique et son poids économique. Tout ceci a fait des Émirats, grâce au talent aussi de MBZ, un interlocuteur valable, un partenaire stratégique de la France et des pays occidentaux, un pays ouvert aux autres pays de la zone et qui représente avec son alliance avec l'Arabie Saoudite et l'Égypte les noyaux durs du système régional arabe.
Et c'est la raison pour laquelle le président Macron a tenu à rendre hommage à son frère décédé.
Vous savez, le président Macron connaît bien les règles d'usage, les traditions, l'importance des gestes, comme ces gestes envers ces pays. Toutefois, depuis la fondation des Émirats Arabes Unis dans les années 70, son fondateur, le père de l'actuel président Cheikh Zayed Ben Al Nahyan, s'est distingué dans sa relation avec la France, surtout avec Jacques Chirac. Et depuis, il y a un partenariat stratégique sur tous les plans politique, culturel, économique, éducatif. Il y a une section de Louvre à Abu Dhabi, il y a une section de la Sorbonne, il y a une base militaire maritime, une base militaire aérienne française là-bas, il y a une coopération tout azimut, et pour cela, il y a un investissement mutuel entre les deux pays, et il y a surtout une coordination diplomatique pour des problèmes, pour résoudre des crises, de la Libye au Yémen et ailleurs. Même la normalisation des Émirats Arabes Unis avec Israël a été perçue avec un regard positif en France. Tout ceci, donc, a fait des Émirats un interlocuteur privilégié, et pour cela, cette visite du président Macron s'inscrivait dans ces cadres.
Et les Émirats Arabes Unis ont bien sûr été rassurés par la réélection d'Emmanuel Macron. C'est une question de stabilité aussi pour les Émirats.
Oui, tous ces pays observaient l'évolution de la situation en France. La France, pour la plupart des pays des Golfe arabe, un pays stratégiquement très important comme une porte pour ses relations avec l'Europe, et aussi un interlocuteur, comme je disais, valable. Et il y a beaucoup d'intérêts mutuels entre les Émirats et la France, et il y a un désengagement mutuel. Et je pense le fait que les deux leaders, là, les deux dirigeants, le président Emmanuel Macron et MBZ, se connaissent très bien. Ils sont liés par une relation, je dirais même amicale. Tout ceci facilite le renforcement des relations bilatérales.
Le politologue Qatar Abou Diab. La réouverture des postes frontières entre le Maroc et les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, ils étaient fermés depuis 2 ans. Cette réouverture ne concerne que les détenteurs de passeports et de visas des pays de la zone Schengen. Les transfrontaliers marocains qui n'ont pas besoin de visa devront patienter jusqu'au 31 mai pour pouvoir entrer à Ceuta et Melilla. Ce drame au large de l'Algérie, 11 migrants sont morts, noyés, après le naufrage de leur embarcation près de Tipaza. Le bateau se dirigeait vers l'archipel des Baléares. La justice française ordonne la réouverture provisoire de la mosquée de Beauvais. La préfète de l'Oise avait ordonné sa fermeture en décembre pour des prêches faisant l'apologie du djihad armé. L'avocat de l'association qui gère la mosquée salue une décision d'apaisement, mais il déplore que la réouverture n'ait pas été autorisée plus tôt. Les invités de Pluriel ce mardi à 19h et 23h, David Amiel, candidat de la majorité présidentielle dans la 13e circonscription de Paris, et à 19h15 et 23h15, Lamia El Haraj, candidate socialiste dans la 15e circonscription de Paris. Plutôt que de vouloir augmenter le pouvoir d'achat, elle dit vouloir augmenter le pouvoir de vivre. On l'écoute.
On parle beaucoup de la question du pouvoir d'achat, et vous avez tout à fait raison, moi je parle de pouvoir de vivre. Pourquoi ? Parce qu'on ramène toujours les individus à quelque chose au final de très mercantile, c'est-à-dire que vous travaillez, en gros vous gagnez un salaire pour simplement payer vos factures et payer vos achats de première nécessité. Or, je crois qu'on a le droit, en tant qu'individu, de pouvoir s'émanciper par l'accès à la culture, par l'accès aux loisirs, par l'accès aux congés, par l'accès au temps libéré. Et ça, il est temps que la gauche renoue avec cette ambition-là de redonner des perspectives collectives et individuelles aux gens. Donc le pouvoir de vivre, c'est quelque chose d'important. Personne ne rêve de vivre pour uniquement payer ses factures. Là-dessus, il y a plusieurs façons d'agir. Il y a la question de l'augmentation du SMIC, qu'il faut passer à 1460 euros, avec une augmentation qui est donc conséquente. Il faut augmenter les salaires dans le cadre de négociations conventionnelles avec les entreprises et les augmenter de façon importante, de 15 à 20%. Il faut augmenter les pensions de retraite, parce que aujourd'hui, un grand nombre de retraités vivent avec des toutes petites retraites qui ne leur permettent pas de vivre dignement et de pouvoir profiter pleinement de ce temps libre qui est celui de leur retraite. Il faut augmenter le minimum vieillesse et le porter à minima à 1100 euros. Il faut augmenter le RSA, parce que personne ne rêve de vivre avec ce minimum-là qui est aujourd'hui permis, et donc revaloriser ainsi l'ensemble des salaires de nos concitoyens. Pourquoi ? Parce qu'on a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les denrées coûtent cher, les matières premières coûtent cher. Donc oui, je crois que décider de bloquer le prix d'un certain nombre de matières premières pour permettre à tout un chacun de pouvoir vivre dignement, se nourrir correctement, et de pouvoir évoluer dans un environnement sain pour lui et pour ses enfants, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'aujourd'hui, le coût du logement, notamment dans une circonscription comme la mienne, est absolument colossal. Et je souhaite que nous puissions instaurer un bouclier logement de façon à mieux encadrer le coût des loyers, à mieux encadrer le coût aussi des prix de vente des biens, parce que il n'est plus acceptable aujourd'hui que le coût du logement représente plus d'un tiers des revenus de nos concitoyens. Et sur les questions énergétiques, il faut qu'on porte une politique ambitieuse, non pas via des chèques ponctuels qui permettent de venir suppléer quelque part à cette inflation des prix de l'énergie, des énergies, de fait à limiter leur augmentation de façon conséquente, à encadrer les prix via l'État et permettre à nos concitoyens de ne pas subir, je dirais, la quintuple peine qui est celle et des salaires et de l'augmentation des prix et de l'augmentation des coûts de l'énergie.
Lamia El Haraj, candidate socialiste dans la 15e circonscription de Paris. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.